Autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour à tous et bienvenue. Quand est née la pensée écologique ? Qui sont les pionniers de la réflexion sur nos relations à la nature ? Comment le regard occidental sur l'environnement s'est-il modifié ? Quelles sont les grandes étapes de la prise de conscience d'une crise écologique ? Comment est née la notion de développement durable ? Est-elle encore d'actualité ? Quels sont les enjeux politiques, économiques, religieux, techniques ou encore éthiques liés à l'écologie ? Quand se sont formés les premiers partis verts et les grandes ONG environnementales ? Quel est le lien entre écologie et démocratie à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, autour de la question « Quelle est l'histoire de la pensée écologique ?» La réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Sophie Joubert.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne, faculté des géosciences et de l'environnement. Et vous avez publié, notamment parmi vos nombreux ouvrages, avec Augustin Fragnard, La pensée écologique, une anthologie. Cet ouvrage est à la fois chronologique et thématique, puisque vous détaillez les grands enjeux de la pensée écologique. Les textes et les penseurs sont très nombreux, on ne pourra pas parler de tous, mais je voudrais qu'on remonte à l'un des pionniers de l'écologie, c'est le philosophe encyclopédiste naturaliste américain Henry David. Thoreau. Écoutez un extrait de Walden, La vie dans les bois, et un éclairage de Michel Granger, professeur de littérature américaine.
Toutes les feuilles et tous les rameaux étaient ce matin recouverts d'une étincelante armure de givre. Même les herbes dans les champs découverts portaient d'innombrables pendants de diamants qui tintaient joyeusement quand le pied du promeneur les effleurait. C'était à la lettre un naufrage de bijoux, une débâcle de joyaux. On eût cru qu'une des assises supérieures de la terre avait été enlevée pendant la nuit, exposant au jour une couche de cristaux sans tache. Le spectacle changeait à tous les pas, ou selon que la tête s'inclinait à droite ou à gauche. L'opale, le saphir, l'émeraude, le jaspe, le béryl, la topaze, le rubis étaient là. Telle est la beauté toujours.
Alors il a lu évidemment les travaux des naturalistes de l'époque. En particulier, il a été très influencé par les travaux de Humboldt, un naturaliste allemand et explorateur. Et on pense que ça lui a donné l'idée d'étudier tout de la nature dans les environs de Concorde, tout, c'est-à-dire faire des relevés de température, relevés sur l'apparition des fleurs, et tous ces faits qu'il a classés dans ses cahiers, essayer de les relier. C'est l'idée déjà embryonnaire de l'écologie, connaître un biotope et savoir tout ce qui s'y passe, et de là pouvoir mieux connaître la nature. Donc c'est ce qu'il a un peu séparé d'Emerson.
Voilà, donc avec Thoreau, Dominique Bourg, on est au milieu du 19e siècle. Thoreau d'un côté pour l'Amérique et Jean-Jacques Rousseau de l'autre pour la France, ce sont vraiment les deux pionniers.
On peut dire oui, on les a choisis, si vous voulez, comme en quelque sorte le pré-discours sur la nature, la manière de tourner le dos à l'idée d'arrachement, à l'idée moderne d'arrachement, par certains côtés peut-être aussi une absence de sensibilité par rapport aux beautés de la nature. Là, on a au contraire un retournement complet, et la nature devient une source d'inspiration, une source spirituelle. Pas oublier non plus que Thoreau, c'est à la fois le fondateur, enfin un des fondateurs, parce que c'est quelque chose qui est très inscrit dans la tradition, mais de ce qu'on appellera plus tard la simplicité volontaire, et puis c'est aussi un des fondateurs de la désobéissance civile. Donc on est vraiment là, si vous voulez, où on y trouve des choses qui vont se développer tout au long de l'évolution de ce qu'on appelle la pensée, le mouvement écologique de façon plus générale encore.
Et est-ce que d'emblée, on a ce qu'on pourrait appeler une école américaine, une école européenne ?
Alors, avec ces textes-là, oui, probablement parce que vous vous souvenez ce discours de Rousseau lorsque, en se promenant dans la région de Neuchâtel, il tombe sur une manufacture de bas, ça lui gâche son voyage. Alors qu'en revanche, Thoreau adore les trains et on a une relation aux techniques qui n'est pas du tout la même. Maintenant, si l'on prend les choses de façon plus générale, on a effectivement deux contextes qui sont foncièrement différents. Le continent européen, c'est un continent qui est depuis très longtemps continent anthropisé. C'est un continent qui a été déjà largement déforesté. Il le sera encore plus encore au cours du 19e siècle. Mais on est dans une espèce de continuité et ça n'apparaît pas comme un contraste, comme un choc. En revanche, du côté des États-Unis, ce qui va vraiment être le déclencheur de la pensée écologique, c'est la question de la déforestation. Parce que lorsque les colons américains arrivent, grosso modo, on peut presque dire que si l'on imagine une carte et que on représente en vert les forêts et en jaune ce qui n'est pas foresté, on n'a que des petites mouches de jaune. En revanche, à la fin du 19e siècle, c'est l'inverse. On n'a plus que des petites mouches de vert et donc des petites taches de vert. Et il y a une déforestation gigantesque et en un temps record. Et c'est autour de cette déforestation que les choses vont commencer. Un de nos auteurs dit, ben voilà, lorsque le Yankee s'empare du 2H, il est pris d'un délire de destruction.
Alors, le milieu du 19e siècle est vraiment un moment charnière. C'est à ce moment-là qu'apparaît réellement le terme d'écologie, inventé par Haeckel, un naturaliste allemand. Écoutez à ce sujet Jean Dorst, auteur de « Avant que nature meure » et ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle.
L'écologie ne date pas d'hier, et au fond Buffon a déjà fait de l'écologie, en ce sens qu'il a envisagé les rapports des animaux avec le monde végétal, par exemple. Il n'en reste pas moins vrai que l'écologie est née officiellement en tant que science biologique à la fin du siècle dernier, et que ce n'est au fond que depuis quelques dizaines d'années que même le grand public se rend compte de l'importance et de la valeur de cette chose. Pourquoi ? C'est que simplement, au fond, dans le domaine de la biologie, comme dans beaucoup d'autres, même le profane, même le non-spécialiste s'est rendu compte de l'interdépendance d'un certain nombre de problèmes et de questions. Je prendrai un exemple sur le plan, mettons, politique ou économique. Nous savons à l'heure actuelle que s'il y a une famine en Inde ou s'il y a des troubles dans un pays africain, cela réagit sur nous, nous ne vivons plus en vase clos. Et je crois que cette espèce de prise de conscience de l'unité du globe et du fait que chacune de ses parties dépend l'une de l'autre est déjà une prise de conscience écologique.
Ce que dit aussi Jean Dorst, Dominique Bourg, c'est que l'écologie se nourrit des autres sciences. Quand réellement l'écologie s'articule-t-elle à la science ?
Alors, comme il a dit, on pourrait remonter plus loin, mais disons le scientifique qui va baptiser cette discipline, qui a pour objet l'étude que les espèces entretiennent les unes avec les autres et en même temps avec leur milieu, avec leur biotope. Bon, ça c'est la définition qu'Haeckel donne en 1866 dans sa Generemorphologie de l'écologie, et ça reste toujours grosso modo la définition de l'écologie. Donc là, effectivement, cette science apparaît. Alors, il y a des éléments antérieurs, mais cette science apparaît, en tout cas, est nommée vers le milieu du 19e siècle, et puis elle va petit à petit s'installer dans le paysage, et donc on va avoir une conception de la nature qui va osciller entre d'un côté la physique, qui reste toujours la science reine, et puis là on découvre autre chose, un autre continent, et on y découvrira petit à petit, peut-être là en premier, cette idée de complexité, d'impossibilité de connaître et de formaliser toutes les relations, c'est quand même effectivement avec la question de l'écologie. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que, eh bien, l'écologie, c'est aussi nébuleuse. Là, on a l'écologie comme science, et très tôt, cette science associée à d'autres éléments va faire naître une réflexion, donc une sorte de métadiscours qui va se nourrir au début de constats empiriques, de récits de voyage, et tout de suite et très très rapidement d'études scientifiques. Et à partir de là, ce discours méta, ça va être la pensée écologique. Et elle-même, eh bien, elle va aussi, après avoir des fruits divers, par exemple comme l'écologie politique qui arrivera beaucoup plus tard. Mais il faut vraiment bien faire la distinction. On a tout d'abord affaire à une science. Et la pensée écologique va se nourrir de ces sciences, mais pas seulement, d'autres constats divers. Et puis on arrive à une situation très particulière aujourd'hui où, bien finalement, alors que les premiers constats, on parle de déforestation, on va parler de pollution visible, et au fur et à mesure que le savoir scientifique sur le milieu va se raffiner, eh bien on va, grâce aux études scientifiques, accéder à des parties de la réalité auxquelles nos sens ne nous permettent pas d'accéder.
Mais le rapport à la technique est également extrêmement important. Est-ce que les dégâts causés par les deux guerres mondiales modifient notre rapport à la nature ?
Alors curieusement, je dirais que les dégâts pourtant gigantesques de la Première Guerre mondiale, hein, c'est tout d'abord plus de 10 millions de morts, c'est les gaz, l'hypérite, gaz moutarde, etc. C'est la première fois on peut bombarder les civils, où la guerre est quelque chose qui touche aussi au-delà du front. C'est-à-dire comme on n'est pas sorti presque entre les deux guerres de la question de la guerre, je ne veux pas dire que la question de l'environnement soit restée absente. D'ailleurs, c'est entre les deux guerres avec Steiner que va naître par exemple un aspect de l'agriculture biologique, un petit peu plus tard en 1940 avec Howard, cette fois-ci l'anglais, on voit naître l'agriculture écologique dans l'entre-deux-guerres, mais évidemment les soucis sont assez différents et je dirais qu'on ne va vraiment tirer les conséquences de ce deuxième moment de la modernité qu'après la Seconde Guerre mondiale.
Autour de la question « Quelle est l'histoire de la pensée écologique ?», on va s'intéresser précisément à la deuxième partie du XXe siècle et particulièrement aux pesticides avec une grande lanceuse d'alerte qui est Rachel Carson, juste après John Baez, « What have they done to the rain ?» sur RFI. C'est une protest song des années 60. What have they done to the rain sur RFI? Qu'ont-il fait à la pluie? Dominique Bourg, cette chanson est sortie en 1962. C'est aussi l'année de publication de Silent Spring, le printemps silencieux de Rachel Carson. Alors Rachel Carson, c'était une biologiste et environnementaliste américaine, passionnée par la vie marine. Et puis elle s'est ensuite intéressée à la protection de l'environnement et aux impacts des pesticides sur l'environnement et sur la santé. Et Silent Spring dénonce particulièrement les dangers de l'usage massif du DDT, danger sur les oiseaux et par extension sur la santé humaine. Écoutez sa voix.
Pour ces gens, apparemment, l'équilibre de la nature était quelque chose qui s'annulait au moment où l'homme entrait en scène. Mais c'est un peu comme si on annulait la loi de la gravité. L'équilibre de la nature est construit à partir d'une série de corrélations entre les êtres vivants et entre ces êtres vivants et leur environnement. On ne peut pas simplement changer brutalement une chose sans que l'ensemble en soit modifié.
Est-ce que le combat de Rachel Carson est le grand combat environnemental de l'après-guerre, Dominique Bourg?
En tout cas, c'est le premier grand combat est celui qui va être vraiment très structurant pour la suite. L'extrait qu'on vient d'entendre est assez remarquable parce qu'il montre bien le lien qu'il y a entre l'écologie comme science, hein, science des relations que les espèces entretiennent entre elles et avec leur milieu, et puis l'écologie comme mouvement, comme protestation, parce qu'elle-même, elle appuie sa protestation sur le savoir scientifique écologique, c'est très clair dans cette histoire. Alors, effectivement, Rachel Carson, ce n'est pas rien. Il y a d'autres textes avant elle, mais c'est vraiment le premier texte, le premier livre qui va vraiment déclencher un mouvement social. Alors, à l'arrière-plan, on a aux États-Unis un sentiment de la nature qui est très fort, qui est très développé, l'amour pour le wilderness, etc. On y voit vraiment la spécificité de l'esprit américain. Et dans ces années-là, les États-Unis, c'est un pays pionnier en matière de nature. C'est plus du tout les États-Unis d'aujourd'hui. Et le livre de Rachel Carson, c'est le premier, si vous voulez, qui va inscrire effectivement la question de la chimie, des pesticides, comme vraiment au cœur de la protestation écologique. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand vous faites des sondages aujourd'hui, c'est un des sujets qui vient en premier. C'est aussi la première victoire écologiste. C'est-à-dire que elle va être roulée dans la boue par les entomologistes, etc., qui sont payés par les grands groupes chimiques. Mais elle va finir par être défendue par le président Kennedy. Et puis, on voit là, c'est vraiment, on va passer à une vitesse supérieure en termes de mouvement écologique. Sa protestation est scientifiquement très très fondée, c'est-à-dire elle s'appuie sur un certain nombre de travaux des années 50 qui montraient effectivement les effets en termes de dégradation sur le système reproducteur d'un certain nombre d'espèces du DDT. En plus, sa protestation est très posée, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'il ne faut en aucun cas employer le DDT, elle dit qu'on en a un usage massif qui est extrêmement dangereux, un peu comme si on voulait écraser une mouche avec un bulldozer. Et puis finalement, les travaux scientifiques par la suite lui donneront entièrement raison. Alors on finira par interdire le DDT. L'OMS aujourd'hui, parce qu'on l'a toujours maintenu en Afrique, et l'OMS maintenant a décidé qu'il fallait aussi là l'interdire à l'avenir, mais en même temps j'en profite, Rachel Carson, c'est la première et peut-être la seule victoire des écologistes. Et là, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on lui impute, par exemple, vous prenez le livre de Bruckner, hein, l'Apocalypse.
Pascal Bruckner.
Voilà, Pascal Bruckner. Il lui impute 1 million de morts. Bon, il a trouvé ça sur les sites internet, c'est complètement idiot. Le DDT n'a jamais été interdit en Afrique. Donc, les think tanks climato-sceptiques, etc., se sont saisis d'elle, ont essayé de la salir pour dire, vous voyez, la première victoire des écologistes était une monstruosité.
Voilà, encore aujourd'hui, Rachel Carson est très contestée. Alors, on va y revenir, mais vous dénombrez dans votre ouvrage, à partir des années 50, 5 caractéristiques nouvelles des problèmes de l'environnement. Relation à l'espace, avec globalisation des perturbations, imprévisibilité, irréversibilité et opposition flux-pollution. Ça, c'est fondamental.
Oui, alors irréversibilité, inertie, hein, c'est les deux ensemble. Lui, effectivement, sont les caractéristiques des problèmes d'environnement contemporain. Et de façon très simple, on peut les résumer en une seule. Au moins pour les 4 premières, c'est qu'ils échappent à nos sens. Et c'est effectivement, si vous sortez dehors, en mouillant vos doigts, vous n'allez pas voir qu'il y a 400 ppm de dioxyde de carbone dans un volume d'un million de molécules d'air. Et pourtant, cette petite test du carbone, c'est déjà elle qui permet à la vie sur Terre, si vous voulez, d'être possible. Et puis là, comme on le fait exploser, eh bien, on enclenche ce qu'on appelle le changement climatique. Mais de manière générale, quels que soient les problèmes d'environnement, qu'il s'agisse de biodiversité, qu'il s'agisse de micropolluants, etc., toute la difficulté, c'est qu'ils n'alertent pas nos sens. Et justement, cette quatrième caractéristique, irréversibilité et inertie, eh bien, fait que, en fait, on déclenche des mécanismes de dégradation, on ne les perçoit pas, et les premiers signaux d'alerte sont locaux, etc., ne concernent pas tout le monde, et lorsque l'on arrive à vraiment une dégradation qui va devenir universelle, comme par exemple pour le climat, bien de toute façon il est largement trop tard pour réagir. Ça, je dirais que c'est le piège environnemental.
Autour de la question, quelle est l'histoire de la pensée écologique ? Dominique Bourg, vous restez avec nous. On va parler d'écologie politique dans la deuxième partie de cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, La pensée écologique, une anthologie, écrit avec Augustin Franière et paru au PUF. On se retrouve juste après les informations.
Question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, quelle est l'histoire de la pensée écologique à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement? Nous sommes en compagnie de Dominique Bourg, philosophe, professeur à l'Université de Lausanne et auteur de La pensée écologique, une anthologie, un livre écrit avec Augustin Franière et paru au PUF. Dominique Bourg, je voudrais vous faire écouter un éclairage du philosophe et sociologue Edgar Morin. Il était interviewé sur France Culture en 1974. Pour lui, l'écologie fait appel à un nouveau type de savoir.
Jusqu'à présent, dans l'optique traditionnelle, disons, de notre civilisation, il n'y avait pas de nature. On laissait la nature aux poètes, n'est-ce pas ? Il n'y a que des objets que l'on peut manipuler. Et dans le fond, c'était le fruit aussi bien, disons, du positivisme que de la pensée, enfin, que la métaphysique, disons, cartésienne, n'est-ce pas, qui fait l'homme sujet et un monde d'objets. Et ce qui s'est passé, je crois, c'est que ce traitement des phénomènes naturels comme objets a commencé à entraîner certaines lésions irréparables, ces phénomènes de pollution. Alors, la science écologique, en quelque sorte, a révélé que finalement les romantiques avaient raison. La nature est une totalité organisée. Elle est auto-organisée de façon spontanée, c'est-à-dire qu'il y a des rapports, à travers les rapports de complémentarité, de symbiose, même d'antagonisme entre les espèces, même entre les espèces qui se mangent, il y a une solidarité profonde. Et cette idée de nature, en même temps qu'elle encourageait, si vous voulez, un mouvement très profond de chercher une vérité naturelle, enfin qui continuait le rousseauisme et le romantisme, a trouvé un fondement scientifique. Et je crois que c'est un peu ça, le caractère explosif du mouvement écologique, qui le différencie du retour à la nature traditionnelle, bien qu'il en soit une nouvelle forme, et qui d'autre part fait de l'écologie ainsi conçue une science un peu différente des autres sciences, parce que s'il faut comprendre les interactions, il faut un nouveau type de savoir, il faut un nouveau type de chercheur et de savant polyvalent pour comprendre les interactions.
Dominique Bourg, Edgar Morin parle d'un nouveau rapport au savoir et il parle de la nature explosive de l'écologie. Pour Morin, tout ça est très lié à la contre-culture.
Oui, alors c'est assez ambivalent hein, cette relation science-écologie. D'une part, effectivement, l'écologie va donner une image de la nature. On peut pas dire. Peut-être un peu loin en parlant d'absence de la nature. On a plutôt un mélange entre le cosmos, les astres, la loi de la gravitation, et puis finalement, sur l'arsenal de Pise, les machines. Et on est effectivement entre les deux. Et puis la nature au sens de la nature qu'on perçoit était absente. Et évidemment, l'écologie la fait revenir. Mais surtout, elle fait revenir la complexité. Elle fait revenir des situations où, en fait, notre capacité à prévoir finit par être mesurée. Elle fait revenir le moment où, ben, avec des modèles, on n'a pas d'autre solution que d'interpréter, finalement. On a des interprétations formalisées, mais ce ne sont que des interprétations de la nature et de ses trajectoires possibles. Mais en même temps, il y a une ambivalence très très forte. Au moment de la naissance de l'écologie politique, avec un biologiste comme Commoner aux États-Unis, un mathématicien comme Grothendieck, etc., on a un mouvement qui est aussi un mouvement de contestation des sciences. Et puis qui est un mouvement de contestation du devenir très technique et de l'asservissement de la connaissance à l'industrie. Donc, pardon, la naissance de l'écologie politique, elle est très très ambivalente par rapport à la question de la science. À la fois, effectivement, elle se fonde sur cette partie nouvelle, puis qui va finir par s'étendre, hein, de l'auto-organisation, etc., des sciences du complexe, qui va finir finalement par tout envahir, et en même temps, elle dénonce une certaine forme d'usage politique de la science, on ne peut plus, classique.
Mais Dominique Bourg, quel est le lien entre écologie et crise économique? Parce que la grande période de l'écologie, ce sont les années 60-70, mais il y a un grand changement entre les années 60 et les années 70. Les années 60, c'est la prospérité, et puis ensuite, c'est le choc pétrolier et la crise.
Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que le premier avertissement, en quelque sorte, de la pensée écologique, hein, c'est le rapport Meadows, qui arrive juste
72.
Avant la conférence... 72, exactement, qui arrive juste avant la conférence de Stockholm. Alors, c'est le premier signal d'avertissement. C'est-à-dire là, on est avant le choc pétrolier qui va intervenir une année avant, hein, 73-74, ah, une année après, excusez-moi, 73-74. Et là, on est sur le fait de dire, bien, finalement, la trajectoire sur laquelle nous sommes n'est pas une trajectoire que l'on va pouvoir poursuivre dans le temps, et encore moins que l'on va pouvoir étendre dans l'espace à d'autres, comment dire, à une population beaucoup, beaucoup plus large. C'est-à-dire que les modes de vie occidentaux, nous dit-on alors, ne sont pas durables, précisément. Et donc ça, c'est un signal d'avertissement extrêmement fort, bien sûr, qui ne sera pas suivi, même si à l'époque, il va vraiment faire un choc. Donc avant même qu'il y ait une crise économique, ce que dit en quelque sorte la pensée écologique dans ses expressions, c'est que le système économique qui est le nôtre est un système hors sol, hors nature, que l'on ne va pas pouvoir poursuivre.
Et les années 60-70 marquent aussi la naissance des grandes ONG environnementales telles que WWF ou encore Greenpeace.
Oui, alors on peut pas dire que ça marque là, si vous voulez, les des très grandes ONG genre le Sierra Club apparaît en 1892 en France, la Société nationale de protection de la nature est là à son fondement, la Société zoologique d'acclimatation, la Société impériale zoologique je crois d'acclimatation. Bon, OK, on a déjà un mouvement qui se crée, qui s'organise au 19e siècle. Disons qu'en fait, dans l'après-guerre, on vient de le voir avec Rachel Carson, ça commence à se diffuser beaucoup plus dans la société, mais ça existait déjà avant, ça se diffuse beaucoup plus dans la société. Et puis effectivement, le tournant des années 60, le tournant des années 70, c'est le moment de la naissance de l'écologie politique. C'est-à-dire, c'est le moment où on a une accumulation énorme de nos constats, dont on peut voir avec le rapport au Club de Rome comme une espèce de condensé, si vous voulez, mais en plus, on y rajoute la prospective. Et là, on se dit, bien, effectivement, les techniques ne parviendront pas à résoudre les problèmes qu'on accumule. Il faudrait réformer l'organisation de la société et, au premier chef, réformer l'économie et ce qu'on a commencé à appeler alors la croissance.
Alors en France, l'écologie politique est vraiment connue avec la figure de René Dumont qui se présente à l'élection présidentielle de 1974. Écoutez sa voix, il parle du gaspillage.
La société de gaspillage, pour moi, est en train de mener l'humanité à sa perte. Et je pense qu'il faudra réagir avec une certaine brutalité contre cette société de gaspillage, parce que la voici qui est en train de détruire les ressources naturelles, de détruire les possibilités de production agricole, de détruire les ressources en eau, de détruire les possibilités de survie. Alors pour moi, je ne vois pas la possibilité de survie si on ne change pas notre système social en mettant fin au gaspillage. Alors, mettre fin au gaspillage, ça veut dire allocation centralisée des ressources rares par un organisme mondial qui empêche d'abord que les ressources rares aillent à la fabrication des armements. Ça veut dire qu'il faut changer complètement notre conception de l'armement, notre conception de l'État. Toutes ces conceptions sont actuellement prématurées.
Alors, René Dumont est agronome de formation. Il a d'abord un premier enthousiasme pour la Révolution verte et puis après, il est un des premiers à en dénoncer les ravages. C'est un utopiste, mais à la fois, il a un vrai programme politique, Dominique Bourg.
Oui, alors là, on est vraiment, si vous voulez, c'est superbe ce passage-là. On est vraiment au cœur de l'écologie politique et on voit évidemment pourquoi elle n'a pas réussi. Elle pose un diagnostic, c'est-à-dire qu'effectivement, l'accumulation des difficultés qu'on va connaître ne va aller qu'en empirant et on ne pourra pas y répondre en maintenant le système, ce qu'il appelle le système social, on devrait dire socio-économique, si vous voulez. Sans quoi il a eu complètement raison. C'est-à-dire, si on voit 40 ans après, on commence à avoir des problèmes de métaux, on a des problèmes de climat, la biodiversité, c'est un massacre, c'est terrible. Donc, en fait, ces gens n'ont pas du tout eu tort. Ils ont vu juste avant les autres. Mais une des difficultés, c'est qu'ils ont posé une alternative politique extrêmement radical. Oui. Ils ont demandé, si vous voulez, aux gens de sauter pas simplement plusieurs marches, mais plusieurs escaliers d'un coup. Et donc, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas été suivis, même si, effectivement, leur discours à l'époque était juste. On peut prendre l'exemple de Sico Mansholt, qui avait été ministre de l'agriculture lié aux institutions européennes, qui après justement le rapport au Club de Rome, alors vraiment, mais fait, c'est extraordinaire comment ça, il propose un programme, mais entre guillemets, de décroissance. Mais les Dumont, les autres le récusent. Donc voilà, on voit, si vous voulez, tout le côté aujourd'hui qui paraît, j'ose pas dire, mais c'est un peu pathétique en fait, si vous voulez, avec le recul. Là, il y a une occasion manquée extraordinaire. On aurait eu besoin de discours plus progressifs, un peu plus de biais pour pouvoir réussir. En fait, bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement le business as usual a continué et on voit les résultats aujourd'hui.
Alors, l'autre figure de l'écologie politique de tradition française, c'est celle de Serge Moscovici, historien, philosophe des sciences, proche d'Alexandre Coiré. Il est cofondateur du mouvement Écoropa, un mouvement régionaliste et européen de promotion de l'écologie. Ouais. Quelle a été l'importance de Moscovici?
Ah, je crois qu'elle est vraiment très grande, l'importance de Moscovici. C'est que c'est un peu un des pères fondateurs oubliés. Il est là, effectivement, tout au début, avec les Grothendieck, les Gorz, etc., les Fournier pour Charlie Hebdo et tout. C'est vraiment un acteur important et c'est sans doute, alors probablement peut-être à l'époque, le penseur le plus profond de nos relations à la nature. Et c'est quelqu'un qui est effectivement très critique des sciences et qui voit dans l'écologie, il croit que c'est quelque chose qui va devenir, qui va emporter le reste de la société, qui va devenir un véritable mouvement social, mais il voit dans l'écologie une contestation d'une certaine forme de science, de la technostructure, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte que vous reproduisez dans le livre, c'est qu'il parle de physique quantique, de mathématiques. Au fond, il dit que les forces que l'homme parvient à maîtriser commencent à égaler la nature elle-même. Est-ce qu'on s'approche là des réflexions sur l'anthropocène ?
Par certains côtés, alors en fait, on s'en approche depuis le 19e siècle, avec des gens comme Fischer, 20e avec Vernadsky, etc. Très tôt, on prend conscience du fait que la tendance sur laquelle on est va amener l'humanité à jouer un rôle de plus en plus important, de plus en plus puissant vis-à-vis de la nature. Vernadsky, lui, va parler, par exemple, dans les années 20, de forces géologiques. Et alors aujourd'hui, on est vraiment là. Hein, si on regarde les effets du changement climatique via la fonte de l'Inlandsis, du Groenland, ou même des glaciers de la petite Islande, ça a un effet à la fois sur les activités volcaniques et ça a un effet sur la tectonique des plaques. Donc ces gens ne se sont pas trompés. Si vous voulez, par exemple, le changement climatique, notamment, c'est pas simplement un problème d'environnement. C'est un phénomène qui est en train d'affecter le système Terre. Et au cœur de ça, on a une humanité qui, par sa démographie et par ses techniques et ses consommations, est devenue alors une véritable force géologique.
Mais l'anthropocène est nommé en 2000 par Paul Crutzen. Et en même temps, les géologues ne reconnaissent pas ce terme d'anthropocène. On est encore officiellement dans l'Holocène.
Oui, alors évidemment, mettez-vous à la place des géologues, ils n'ont reconnu l'Holocène qu'en 2009. Ne leur demandez pas de reconnaître aussi vite, si vous voulez, l'Anthropocène. Cela dit, il y a toutes sortes d'indicateurs, des microsphères de carbone partout, les diatomées dans les lacs sentinelles qui réagissent au surcroît du cycle de l'azote. Enfin, il y a des indicateurs partout de l'Anthropocène. Ils finiront bien un jour par nous le dire. Mais c'est peu importe, laissons aux géologues le temps. C'est une discipline du temps long, donc demandons-le. On ne doit pas leur demander de se précipiter à ce point. Mais l'idée d'anthropocène est une idée déjà. Si vous voulez, pour autant qu'on la raccroche à cette idée d'une humanité force géologique, elle est en gestation depuis assez longtemps. Et effectivement, aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont à cet appui.
Alors l'écologie est liée à de nombreux enjeux politiques, on en a parlé, mais aussi juridiques, éthiques ou encore économiques. On en parle juste après Camille, aujourd'hui sur RFI.
Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde de carbone. Sur la plus belle planète, 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 la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète.
Camille, aujourd'hui sur RFI, Dominique Bourg, vous avez été très proche d'André Gorz, philosophe, un des grands théoriciens de l'écologie politique. Écoutez ce qu'il disait sur France Culture en 1990.
Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être. Le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer, pas seulement de technique, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui va simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement.
Réaction de Migo.
Oui, j'aimerais envie de réagir, s'il vous plaît, aux deux. Parce que le poème, là, de Camille, c'est magnifique. Enfin, c'est extrêmement émouvant. C'est très, très fort. Et pour moi, ça exprime vraiment ce que je pense nous sommes très nombreux à ressentir aujourd'hui. C'était superbe. Hein. Et on voit le contraste avec André Gorz. Hein, parce que on a là deux traditions de l'écologie qui sont très différentes. Celle de Camille est beaucoup plus internationale et c'est celle à laquelle on est très sensible aujourd'hui. C'est vraiment, si vous voulez, un degré de dégradation qui est quand même totalement inouï. Je vais prendre un simple exemple. On a détruit depuis le début du siècle, grosso modo, 85% de la biomasse des océans. On a, entre 70 et 2010, détruit non pas en termes d'espèces, mais en termes de nombre d'individus, si vous voulez, la moitié des mammifères, des oiseaux, des reptiliens, des amphibiens, etc. C'est absolument effrayant. Et je dirais que ce qui est en train d'arriver dans les océans aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que les méduses maintenant envahissent tous les milieux, que dans 20 ans, probablement, peut-être plus que des méduses dans les océans, c'est quand même c'est effrayant. Et il n'y a que un poème comme ça qui permet de le comprendre, hein, qui en donne la force. Alors, c'est des choses auxquelles cette tradition magnifique, par ailleurs, hein, d'André Gorz, n'était pas très sensible, si vous voulez. La tradition, mais elle est importante aussi, hein, faut pas non plus les opposer. Mais la tradition française, c'est très clair dans ce discours de Gorz. Le problème, c'est qu'on s'est fait piéger. On s'est fait piéger par le système industriel, c'est-à-dire on a vu dans l'accumulation de la richesse matérielle une fin en soi. Et c'est vrai. Les économistes sont certains, nous ont montré qu'à partir d'un moment, la courbe, si vous voulez, qui retrace l'accumulation de biens matériels est celle qui retrace le sentiment de bien-être, grosso modo, à partir d'un PIB moyen de 15 000 dollars par an et par personne, se disjoignent, jusque dans certains cas, à devenir contradictoires. Donc là, on est sur cette tradition, c'est vraiment la tradition française, c'est celle, si vous voulez, de... Alors, Illich n'est pas français, c'est international, mais c'est Illich, c'est Gorz, mais en français, c'était déjà Jouvenel. C'est des gens comme Guattari, etc. Jouvenel. Oui, Bertrand Jouvenel. Même Castoriadis, par certains côtés, c'est ça. Leur idée à eux, c'est... on doit profiter de ces crises pour reconstruire le vivre ensemble. Ça, c'est vraiment la tradition française. Et on n'est pas forcément très très sensible, je n'exclus pas cette sensibilité, mais c'est pas elle qui est mise en avant, si vous voulez, la sensibilité à la destruction de la nature. Là, chez Camille, on a cette sensibilité, alors, au centuple. Voilà, c'était simplement pour souligner cette différence.
Mais ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'André Gorz, c'est qu'il parle de changement de paradigme, il faut qu'on change notre manière de vivre, au fond, et on n'est pas prêt à le faire.
Non, c'est l'écologie politique, hein. Ça, c'est le discours, alors c'est aussi le mien, hein. C'est le discours de l'écologie politique, c'est qu'on ne va pas, si vous voulez, résoudre nos problèmes par des techniques. Nos problèmes sont extrêmement profonds et on ne pourra y répondre qu'en transformant radicalement la société. D'où le fait, effectivement, que probablement l'écologie politique a raison, et en même temps elle est inaudible. Elle nous dit parce que on est attaché à notre aliénation, parce que c'est remettre en cause des consommations, etc. Parce que c'est remettre en cause un système, parce qu'il est système, ne peut pas être changé comme ça. Donc, mais là, on est vraiment au cœur de l'écologie politique.
Alors, c'est inaudible aussi parce que les pays n'arrivent pas à s'entendre. Il y a un vrai problème de coopération internationale. Je voudrais vous faire écouter, Dominique Bourg, un reportage sur le sommet Rio plus 20, donc 20 ans après le premier sommet de la Terre en 1992. Écoutez, c'était donc en 2012 sur Euronews.
Les derniers préparatifs avant la conférence des Nations Unies sur le développement durable. Chefs d'État et de gouvernement du monde entier doivent se retrouver à partir de ce mercredi à Rio de Janeiro, au Brésil. Rio plus 20, ce rendez-vous a lieu 20 ans après le sommet de la Terre. Mais si en 1992, tous les espoirs étaient permis, cette année en revanche, les ambitions sont plus que limitées. Et pour cause, la communauté internationale est davantage préoccupée par la crise financière que par les questions environnementales, ce que regrette ce responsable de l'ONG Greenpeace. Les seuls progrès dont il est question ici, dit-il, sont ceux qui permettent d'édulcorer le texte final. La vérité, c'est que les dirigeants viennent ici pour s'engager à ne rien faire. Le sommet de la Terre en 1992 avait jeté les bases du protocole de Kyoto sur la limitation des gaz à effet de serre. D'après les ONG, 20 ans plus tard, le niveau d'émission des gaz polluants n'a jamais été aussi élevé.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête, Dominique Bourg, sur cette notion de développement durable qui naît donc à la fin des années 80. Et vous êtes assez sévère avec cette notion dans votre livre, enfin vous et d'autres auteurs dont vous reproduisez les textes, par exemple Robert Amsolo, un économiste américain, qui dit que c'est un concept très vague au fond. Et ce sommet de Rio plus 20 marque l'échec de cette notion de développement durable.
Alors, tout à fait. Alors, Solo, c'est une critique, mais c'est lui qui a gagné. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'il définit, lui, comme la durabilité très faible qui va l'emporter. Avant ça, faut bien voir que entre Rio 92 et puis aujourd'hui, et Rio plus 20, c'est quelques années, ben, je veux dire, tout a complètement changé. 92, on y croit. Et on pense, effectivement, qu'on va pouvoir anticiper les difficultés. Et l'idée de développement durable, c'est l'idée selon laquelle on va réussir justement, à anticiper les difficultés dans nos domaines, c'est-à-dire à réduire les grands déséquilibres en matière globale et environnementale, d'un côté, et de l'autre, en termes de répartition inégale de la richesse. 25 ans après, vous savez, vous connaissez le constat, en fait, ces deux types de déséquilibres environnementaux, globaux, et puis en termes de répartition de la richesse sur Terre, se sont largement aggravés. Alors, prenons simplement l'aspect environnemental des choses. Vous avez rappelé Kyoto, mais avant Kyoto, on signe effectivement un petit peu avant Rio la Convention cadre sur le changement climatique. Et à son article 2, cette convention nous dit que les pays s'engagent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de telle sorte qu'on ne mette pas en danger le système climatique. Alors vous rigolez, le système climatique, il est en danger. C'est-à-dire que là, comme le dit Jean Jouzel en France, les 2 degrés, c'est sympathique, mais seul un miracle nous permettrait encore d'y parvenir. Le problème, c'est d'essayer de s'éloigner le moins possible, effectivement, de 6 degrés. Et ce type de conférence qu'on va voir à Paris, hein, vous avez 195 pays où on a adopté comme principe le fait que chacun allait proposer ses réductions. Évidemment, bon, je dis pas qu'il y aura aucun résultat. S'il y a des résultats, c'est plutôt du côté de, peut-être, si ces gens ont le courage, de nous mettre en place des instruments qui permettraient d'abonder ce qu'on appelle le fonds, qui va permettre aux pays en voie de développement et les moins avancés, entre guillemets, hein, de faire face au changement climatique auxquels ils sont déjà confrontés. Donc ça serait déjà une bonne chose. Donc le développement durable, c'est un échec. C'est un échec cuisant. Et la raison pour laquelle il a réussi, c'est parce que ça ne veut effectivement pas dire grand-chose. Très vite après, on a dû conceptualiser les choses et on a opposé durabilité faible et forte. Alors, je vais simplifier, si vous voulez. Durabilité faible, c'est-à-dire on continue comme avant. Hein. Simplement, la seule chose qui compte, c'est que on puisse garder nos capacités de production à l'avenir. Et pour ce faire, on va présupposer, j'insiste sur le mot, on va présupposer que tout le capital naturel qu'on détruit peut se voir substituer des techniques et donc du capital reproductible. Donc des techniques. Hein. Dans l'autre conception, le capital naturel détruit, du moins une certaine part du capital naturel détruit, n'est absolument pas substituable. Mais on va bien pour le climat. Hein. Aucune substitution. La géo-ingénierie, c'est déjà même une expression qui est absurde en soi. Et donc, puisqu'on ne peut pas substituer à ce capital détruit des techniques, il faut préserver ce capital de telle sorte qu'on ne le détruise pas. Donc là, ce qu'on appelle la durabilité forte est très forte, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est très proche de ce qu'on appellera la décroissance, si vous voulez. Mais évidemment, personne ne veut l'entendre.
Dominique Bourg, vous consacrez plusieurs de vos travaux à la question de la démocratie écologique. Ça veut dire qu'il faut repenser notre manière de délibérer, de prendre des décisions. Quels sont les outils que vous préconisez?
Si vous voulez, en un mot, on fait le constat suivant. Premièrement, qu'effectivement, les démocraties non seulement ne parviennent pas, mais ce sont elles qui sont responsables des dégradations qu'on connaît. Jusqu'en 1980, la moitié des gaz à effet de serre qui qui avait changé la composition chimique de l'atmosphère était le fait de l'Angleterre dans un premier temps, des États-Unis dans l'autre. Et puis ce sont effectivement nos flux de matière, notamment nos flux d'énergie, qui sont responsables, et ce sont jusqu'à la fin du XXe siècle, là, McNeill l'avait calculé, donc l'historien américain, c'est la part de la démographie dans la dégradation générale est extrêmement faible. Ce sont les flux de matière et surtout les flux d'énergie, mais les uns commandent les autres, des occidentaux et des démocraties, en fait, qui sont à l'origine des dégradations qu'on constate aujourd'hui. Alors pourquoi ça? Bien parce que nos démocraties, elles ont érigé le citoyen en juge ultime, et puis le citoyen, lui, juge en fonction de son bien-être et des atteintes à son bien-être. Or, les atteintes à son bien-être aujourd'hui, soit il ne les voit pas, si par exemple, imaginez de jeunes parents qui sont au bord d'un arc de circulation, ne sauront pas les effets sur la santé de leurs enfants. Et puis, tous nos problèmes environnementaux, eh bien, quand les mécanismes de dégradation se mettent en place, il faut attendre très longtemps pour voir les effets. Donc ce thermomètre qui est le sentiment de bien-être du citoyen ne fonctionne pas. Ensuite, nos institutions, là j'ai plus le temps de le montrer, mais nos institutions non plus, elles ne peuvent pas accrocher. Donc tant qu'on en reste à une démocratie purement représentative, on évoluera très peu et on agira très peu en matière d'environnement.
Merci beaucoup Dominique Bourg. Je rappelle le titre de votre livre écrit avec Augustin Franière, La pensée écologique, une anthologie, paru au PUF le 23 septembre. Paraît également un dictionnaire de la pensée écologique. Merci à Cécile Bonissi pour la réalisation.